membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme, il fut même vice-président de la Ligue à l'époque. Il est un historien renommé qui a écrit de nombreux ouvrages, que vous pourrez trouver d'ailleurs tout à l'heure à la pause sur la table de littérature là-bas, qu'il acceptera peut-être de vous dédicacer, si peut-être. Et il est aussi le coordonnateur de ce numéro spécial d'Homme et Liberté, qui est de la revue trimestrielle de la Ligue, qui est intégralement consacré aux 120 ans, puisque la Ligue est une des plus anciennes, elle est même la plus ancienne association française encore en activité sur le territoire national, qui soit totalement indépendante des pouvoirs publics. Il y en a une toute petite, un petit peu plus ancienne encore, qui est la Croix-Rouge, mais la Croix-Rouge n'est pas indépendante des pouvoirs publics, elle est même très à ses définitions d'ailleurs, elle est rattachée par ailleurs au Comité international de la Croix-Rouge, qui lui-même est étroitement lié à un certain nombre d'autres organisations internationales. Donc la Ligue en France est la seule organisation la plus ancienne à l'heure actuelle, ayant un rayonnement encore aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, métropolitain et outre-mer d'ailleurs. Et ce numéro, donc, qui est intégralement consacré à son 20e anniversaire, Gilles l'a coordonné, tout comme, je ne sais pas si on a encore là, tout de suite l'infographie, mais tout comme, derrière, enfin, vous verrez le diapo derrière, tout comme Gilles est parmi les historiens de la Ligue et autour, qui ont, il y a peu de temps, coordonné un colloque international qui, à l'occasion duquel, a été mis en ligne, et donc vous pourrez poursuivre la réflexion que vous pouvez avoir ou souhaiter sur l'histoire de la Ligue des droits de l'homme sur le site d'une grande bibliothèque universitaire qui s'appelle La Contemporaine, et vous avez d'ailleurs l'adresse mail juste au-dessus, c'est d'ailleurs tout simple, hein, www.lacontemporaine.fr. Cette grande bibliothèque a mis en ligne ce qu'ils appellent une exposition virtuelle, puisque vous pouvez vous y promener comme dans une exposition en choisissant vos parcours selon les périodes, les époques, les thématiques, et vous arrivez donc sur cette page d'accueil qui a été dévoilée au public à l'occasion de ce colloque international qui s'est tenu à Nanterre, à l'Université de Nanterre, au mois de décembre. Pourquoi au mois de décembre? Parce que la Journée internationale des droits de l'homme, vous le savez sans doute, est le 10 décembre, et que cette année, c'était tout à la fois les 120 ans de la Ligue des droits de l'homme et les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais je ne vais pas anticiper sur ce que Gilles va nous dire, parce que je vais lui passer tout de suite la parole, pour essayer de tenir en une vingtaine de minutes, nous présenter les moments forts de la Ligue depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, et de peut-être brosser quelques portraits de ceux qui ont contribué énormément à cette période. Voilà, Gilles, c'est à toi.
Merci Philippe. Bonsoir, bonjour à tous. Et je suis très content de cette rencontre et de cette vitalité dont témoignent un certain nombre d'initiatives associatives autour de la section locale. Je trouve que c'est un peu ça que la Ligue doit représenter un peu partout comme pôle de citoyenneté dans les problèmes des droits de l'homme qui ne cessent de se renouveler, d'être différents, et en même temps qui relève du même principe, du moins pour ce qui est de notre action pour la santé de l'association. Alors, ça marche, bon, il faut parler un peu plus près. C'est bon. Alors, donc c'est une association qui remonte toute fin du 19e siècle, donc 120 ans, au moment de l'affaire Dreyfus. C'est une affaire emblématique, par rapport à l'engagement d'un certain nombre de citoyens qui se sont rassemblés pour prendre la défense d'un capitaine de l'armée française injustement accusé d'espionnage, alors qu'il y était pour rien, parce qu'il était juif, c'était pour ça qu'il a été soupçonné, accusé et condamné, donc il s'agissait de prendre sa défense, et en l'occurrence, c'est autour des poursuites contre un écrivain, Émile Zola, qui avait, lui, réagi avec force dans un article intitulé « J'accuse », il avait renversé les choses et il avait pris le rôle de l'accusateur pour s'adresser au chef de l'armée, au chef du gouvernement, aux membres de ce gouvernement, le gros ministre, pour dire qu'on était en train de faire une injustice intolérable. contre ce capitaine. Voilà. Donc il s'agissait de le défendre. Vous avez été poursuivi. Parmi les témoins du procès qui lui était intenté, les témoins de la défense de Zola, eh bien, les gens qui venaient d'horizons différents. Et ça, c'est une caractéristique un peu de la Ligue des droits de l'homme. Parce qu'on a des parcours, les uns et les autres, qui ne sont pas les mêmes. Il y a une diversité d'âge, il y a une diversité d'activité professionnelle, mais il y a aussi une diversité de coloration, de sensibilité parmi les membres. Et alors, des gens se sont rassemblés et ont fondé une association. Et ils ont dit, cette association, elle doit prendre la défense du capitaine Dreyfus, bien sûr, mais aller au-delà. Et ils ont adopté un premier manifeste dans lequel il y a une phrase qui me semble amusante et à la fois intéressante. Amusante pourquoi? Parce qu'elle est rédigée dans un langage qui n'est pas celui que l'on emploie aujourd'hui, et en même temps, on comprend son sens. Il est dit « l'accusé de 1894 ». C'est une manière de désigner Dreyfus sans le nommer. Bon, parce qu'il avait été jugé comme un néo-bagne en 1894. L'accusé de 1894 n'est pas plus juif à nos yeux qu'un autre à sa place eût été catholique, protestant ou philosophe. C'est un peu bizarre comme tournure de phrase. Alors, protestant, catholique, on sait ce que c'est. Philosophe, c'est un terme qu'on employait à l'époque, qui n'est pas tout à fait employé aujourd'hui dans ce sens, pourrait être traduit en quelque sorte en anglais aujourd'hui en libre penseur, agnostique, incroyant, voire athée. Voilà. Et donc, il faut dépasser les convictions individuelles, qu'elles soient philosophiques, religieuses ou politiques, pour défendre des principes. Quand des hommes sont victimes d'atteintes à leurs droits. Alors c'était le cas de ce capitaine, et c'était en même temps la découverte, cette affaire, de ce qu'il pouvait y avoir dans la société. Ça, ce n'était pas pensé au moment de la Révolution française et de la première déclaration, celle de 1789. Ce qui n'était pas pensé, c'était le fait qu'il pouvait y avoir des discriminations et des injustices sur une base raciale. C'était l'idée de racisme, si vous voulez. Ce n'était pas véritablement envisagé au moment de la Révolution française. On a Dreyfus, ça fait éruption dans le paysage politique de la France. Et ça a divisé, vous connaissez peut-être ce dessin qui avait été fait par un caricaturiste qui s'appelle Carandache, qui avait représenté en deux images, avec pour légende, pourvu qu'ils n'en parlent pas pour la première image, et puis ils en ont parlé pour la deuxième, pourvu qu'ils n'en parlent pas, c'était une table de repas de famille, comme on en connaît tous les uns et les autres, et puis la deuxième, c'était la table était renversée, la nappe arrachée, toute la vaisselle par terre, et les gens s'étaient tapés dessus. Voilà, donc ils en ont parlé. Donc c'était l'affaire qui divisait toute la France, mais qui divisait les familles aussi, et qui divisait le pays avec cette question de l'antisémitisme qui s'était répandue dans la société et qui, à ce moment-là, a été l'objet d'une prise de conscience. Parce qu'on s'est dit, notamment quelqu'un comme Jaurès, par exemple, leader socialiste qui fondera quelques années plus tard le Parti socialiste français unifié, eh bien, il dit, attention, si on regarde ce qui se glisse parfois sous prétexte d'anticapitalisme, d'antifinance et autres dans nos publications, il y a des choses qui visent les juifs, ça ne va pas. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on relise, il faut qu'on prenne conscience. Et il y a eu une prise de conscience de ce point de vue-là par rapport à l'antisémitisme. Alors la Ligue, elle n'a pas voulu se limiter à ce sujet de l'antisémitisme et de la fin de l'affaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Et elle a très vite abordé la question des droits sociaux, par exemple. Et ça a été au prix d'un débat interne, parce que la Ligue, on connaît aussi, et je pense que c'est sa richesse, nos disputes, si je puis dire, lors de nos assemblées, de nos réunions, de nos congrès, elles sont importantes, c'est la vie elle-même d'une association comme ça. Et alors, dans les années 1905-1909, un peu avant la guerre 14, la question se posait, est-ce que les droits sociaux, ça fait partie des droits de l'homme? Les syndicats, les socialistes, les bourses du travail, etc., demandent la journée de 8 heures, demandent le droit d'association syndicale pour toutes les professions, etc. Est-ce qu'il faut considérer que c'est des droits de l'homme, ces droits sociaux, la question du logement, la question des retraites, la question d'une assurance en cas de maladie, c'était posé. Est-ce que vous avez des droits de l'homme? Certains disent, ah non, pas du tout, la République c'est très bien, il suffit d'avoir un président, une assemblée, et puis des institutions qui fêtent le 14 juillet, et puis on ne va pas se mêler de ces préoccupations sociales qui sont le propre de partis d'extrême gauche, de syndicats, etc. Il y a eu un débat. Et il a été résolu en intégrant les droits sociaux aux droits de l'homme. Un tiers des militants sont partis à ce moment-là. Ceux qui, justement, étaient un peu des notables de la République, dirais-je, et qui n'ont pas voulu que ce tournant social soit pris. Il y a eu une affaire qui a été un peu emblématique, c'était un peu une affaire Dreyfus de la classe ouvrière. Un ouvrier charbonnier de la ville du Havre, qui s'appelait Jules Durand, qui avait créé un syndicat, lutté contre les armateurs et la condition qu'ils faisaient aux travailleurs du port, eh bien, a été accusé injustement, il était pour rien, comme Dreyfus dans son une accusation dont il était l'objet, il a été accusé d'avoir suscité l'assassinat d'un non-gréviste. Et alors, il a été même condamné à mort. Et il y a eu une campagne. Et on s'est rendu compte que certains, comme la Ligue des droits de l'homme, disaient « c'est une affaire Dreyfus de la classe ouvrière, il faut le défendre de la même façon », et d'autres, y compris des gens qui avaient défendu Dreyfus, y compris des gens qui avaient été sensibles à la question de l'antisémitisme, ben, n'étaient plus sensibles à l'injustice de classe. Et donc ça, c'était quand même un moment qui a été important. Il y a eu ensuite...
Pour se permettre juste une petite parenthèse, parce que certains d'entre vous dans la salle ont pu voir sans doute le film d'ailleurs que tu nous as fait connaître, le très beau film sur l'affaire Durand. C'était une des dernières projections d'ailleurs qu'on a pu faire au Cinéville de Conflans, notre 60e ciné-débat, en présence de la réalisatrice. C'était autour de l'affaire Durand, et je vous invite à voir ce film si vous le voyez repasser sur un écran ou ailleurs. C'est un très beau film sur toute cette histoire que tu nous as décrite en quelques mots. Je prends la parole.
Et donc oui, c'était un moment, et on se rend compte que on ne peut pas résoudre les questions de droits de l'homme à des problématiques simples et uniques. Il y a des conflits de droits parfois. Prendre en compte l'ensemble des droits, c'est difficile. Ça demande une association généraliste. Et c'est ça que la Ligue des droits de l'homme a voulu être dès son départ, généraliste. C'est-à-dire défendre les droits de tout individu. Alors évidemment, si un juif est victime d'atteinte au droit parce qu'il y a de l'antisémitisme, c'est un cas spécifique. Si une femme est victime d'atteinte à ses droits dans le sens de préjugés sexistes, de pratiques sexistes, machistes, c'est un autre problème. Mais il s'agit de croiser tout ça. C'est ce que maintenant des philosophes appellent l'intersectionnalité. C'est un terme de jargon assez récent dans les sciences humaines, l'intersectionnalité, mais il me semble que le généralisme de la Ligue des droits de l'homme comporte, dès son origine, cette notion de croisement des problématiques de défense des droits. Alors, il y a eu, pour faire très court, l'engagement qui a été celui de la Ligue pour les fusillés, pour l'exemple, de la Première Guerre mondiale, la guerre 14, où la justice militaire s'est exercée avec une brutalité considérable. Et il y a eu des campagnes de réhabilitation dans les années 20, dans les années 30, qui ont marqué aussi cette histoire. C'est un peu oublié, mais ça ne doit pas l'être, parce que, bien sûr, il y a 100 ans, la guerre 14, ça nous paraît très loin, mais la problématique selon laquelle, dans une république, si une armée existe, les soldats sont aussi les citoyens, ils ne doivent pas obéir à n'importe quel ordre, ils ont le droit de désobéir à certains ordres, ils ont aussi des comportements de citoyens à respecter, enfin on doit respecter cette dimension citoyenne des hommes sous uniforme, voilà, y compris ça se retrouve dans ce qu'on appelle maintenant les OPEX, là, vous savez, les opérations extérieures qu'on mène dans le Sahel, ou dans tel ou tel pays, pour des objectifs qui ne sont pas toujours discutés de manière démocratique, de manière ouverte, explicite, transparente, et c'est un problème. Et la guerre 14 soulève un ensemble de problématiques qui, dans en tout cas les injustices les plus flagrantes commises par les tribunaux militaires, ont suscité beaucoup d'échos. Beaucoup de sections, par exemple, ont été fondées dans des régions où il y avait un fusillé, pour l'exemple, qui avait marqué l'opinion collective, si je puis dire. Voilà. Et puis après, il y a eu la question du fascisme. Et c'était important, puisqu'en Italie, dans les années 20, en Allemagne, dans les années 30, on avait des régimes fascistes qui provoquaient une émigration de réfugiés politiques, de gens qui fuyaient aussi la misère, pour ce qui est des Italiens de certaines régions, je pense, particulièrement, et qui venaient en France. Et ils se posaient la question de réagir au fascisme. Et en même temps, la question de la guerre avait beaucoup frappé les opinions, et concilier le besoin de paix, qui était très fort dans la population, avec cette nécessité de réagir au fascisme, c'est-à-dire finalement éventuellement à le combattre, hein, les armes à la main, même si on n'aime pas la guerre, la résistance a été obligée de la faire. C'était une question compliquée qui a divisé la gauche, l'opinion française, y compris la Ligue des droits de l'homme, aussi dans les années 30, et aussi dans les milieux antifascistes du Front populaire, le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, qui était divisé sur cette question. Des gens disaient la paix, la paix, la paix, à n'importe quel prix. Hitler, ben, il n'y a qu'à discuter avec lui, on va trouver des solutions, et on ne va pas retomber dans cette horreur qui a été la Première Guerre mondiale. Certains pensaient ça. C'était même un sentiment très répandu en France. D'où la fondation des accords de l'UNI, vous savez, cette conférence qui accepte de laisser à l'Allemagne la Tchécoslovaquie. Beaucoup de gens étaient pour la paix à côté. Et puis d'autres disaient, et c'était le cas de la Ligue des droits de l'homme, et ça lui a fait perdre des plumes, si je puis dire. Là aussi, elle a perdu une bonne partie de ses adhérents. Elle avait quelque chose comme 180 000 adhérents. C'est beaucoup plus qu'aujourd'hui, entre parenthèses. Hein. Aujourd'hui, on est à 8 à 10 000 et on est bien au-dessous. Pourtant, il y aurait des choses à faire, bien plus. Mais elle est passée de 180 000 adhérents en 1931-32 à 120 000 en 40. Vous voyez, c'est quand même un gros morceau. Et ceux qui quittaient, c'était ceux qui disaient: vous n'allez pas nous pousser à faire une nouvelle guerre, la guerre c'est l'horreur, on sait ce que c'est le mal absolu. Et la nécessité de combattre le fascisme n'était pas évidente à faire passer. Alors, concilier des impératifs différents, là aujourd'hui on est confronté par exemple à ces aspirations contradictoires qu'on peut résumer sous la formule un peu lapidaire et simple, la fin du monde et les préoccupations par rapport au sort de la planète, ou la fin du mois pour des gens qui sont à bout du point de vue de leurs ressources. Et cette problématique, elle a émergé avec force dans les deux derniers mois, vous le savez tous. Eh bien, c'est pas simple. Eh bien, la Ligue des droits de l'homme est engagée sur les deux fronts, si je puis dire. Dans les manifestations, les préoccupations, les rencontres sur l'avenir de la planète, hein, la préservation de la Terre et son développement, et puis il y a les risques du développement, etc. Et quel développement? Et puis elle est engagée aussi sur la défense des plus pauvres, parce que les droits sociaux, ça fait partie des droits de l'homme. Hein. Et donc, ceux qui disent que ce n'est pas nous qui allons payer l'addition des mesures nécessaires à la préservation de la planète, eh bien, ceux qui disent ça, ils ont raison aussi. Hein. Alors, c'est un peu une approche particulière de la LDH, mais je ne vais pas m'étendre parce que on a pris le retard et puis le mieux, c'est peut-être d'échanger à partir de questions et de dialogue. La caractéristique de la LDH, c'est d'être attachée à des principes fondamentaux. La liberté. Liberté de manifester ses opinions. Liberté de création. On a un observatoire avec les artistes, etc., qui travaillent dans ce domaine. Liberté de religion aussi, parce que ça fait partie de la liberté d'opinion. Et liberté de toutes les religions. C'est du racisme qu'en France, on dise les églises, la religion catholique, pas de problème, c'est notre patrimoine, mais les gens qui sont d'une religion différente, les musulmans, qui veulent des lieux de culte décent, on n'en veut pas. Ça ne va pas du tout, parce que les libertés, c'est pour tout le monde. Donc, liberté de pensée, liberté de religion, liberté de création, de réunion, d'expression, et puis aussi manifestation. C'est quand même incroyable qu'on restreigne actuellement la liberté de manifester. Avec des arguments, des fichages, etc., qui limitent la liberté de certaines personnes. Donc, elle est sur ce front-là, mais elle est aussi sur d'autres. La question des droits des femmes est difficile à conjuguer avec nos idéaux. Encore à déjeuner, on discutait de l'appellation droit de l'homme, homme, rapport aux humains des deux sexes, hein, comment trouver une solution. Alors évidemment, homme englobe tout, mais il y a peut-être besoin de marquer notre défense des droits des femmes tout particulièrement. Bon, tout ça, ça fait partie de notre champ de réflexion, notre champ de parfois divergence, parfois opposition, mais c'est, à mon avis, l'utilité même d'une association comme la Ligue des droits de l'homme de l'avoir laissé suffire. Alors, à vous la parole.
Oui, on a une vingtaine de minutes, on va se limiter exclusivement à des questions, parce que par la suite, nous enchaînerons un ensemble de témoignages avec des retours sur des questions d'actualité telles que la problématique des migrants, telles que les problématiques de genre que tu viens d'évoquer un petit peu à travers le droit des femmes, mais on y reviendra avec notamment le handicap, on y reviendra notamment avec la participation d'Odile que je vous présenterai tout à l'heure. Donc là, vous avez deux micros en baladeur normalement à votre disposition. Si vous ne souhaitez pas prendre la parole en public, mais que vous avez envie d'écrire une question pour qu'on la traite, qu'elle soit traitée ici ou par la suite, vous marquez votre question sur le petit papier qu'on va pouvoir apporter demain les porteurs de micro et vous mettez une adresse mail éventuellement pour qu'on puisse vous répondre si jamais on n'avait pas le temps de le faire tout de suite. Donc d'un côté Jean et d'autre côté Michel sont à votre disposition pour vous passer un micro. Et je dis bien, c'est pas pour faire d'intervention, pour rentrer ensuite, mais là c'est uniquement pour des questions, parce qu'à 15h précise, on devra libérer cette tribune pour la suite. Donc Gilles est avec nous sur ce plateau pour y répondre dans, très tout de suite.
J'ai compris.
Ok. Donc question, n'hésitez pas à lever la main, ou ce, ne serait-ce que pour écrire sur votre papier, hein, qui nous sera donné pour que vous puissiez mettre votre question.
Alors ma question est que concernant, j'ai pas bien entendu, pas bien compris, la deuxième affaire Dreyfus, en quelque sorte, que j'ai cru comprendre, c'est qu'il était victime d'une injustice, et dans ce cas-là, laquelle Exactement, c'était un ouvrier, alors que bah, évidemment, bien plus, c'était un militaire, donc il va y avoir d'autres différents. Voilà.
On prend peut-être deux, trois autres questions, s'il y a parmi vous des demandes, soit sur l'histoire, soit sur le présent.
Hein. Non, c'est vous, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, il y a une question.
Ah, là-bas.
Bonjour, je m'appelle Didier. Vous avez décrit l'évolution de cette organisation, la Grande Ligue des droits de l'homme, et son évolution, ses changements. Mais aujourd'hui, moi je me dis, qu'est-ce qui prévaut, l'homme ou la planète ?
J'ai tendance à répondre à la dernière question, mais peut-être on va en prendre.
Oui, j'ai une petite question concernant la liberté de manifester dont vous avez parlé tout à l'heure et que vous défendez. Mais comme manifestation s'accompagne de vandalisme et de ce qu'on voit ces temps-ci, est-ce qu'un État n'est-il pas en droit de restreindre cette liberté ?
Alors, on deux mots sur ces trois questions. Alors, l'affaire Durand, j'ai fait allusion, 1911, c'était l'affaire Dreyfus de la classe ouvrière, si je puis dire. Ça a suscité des mobilisations contre une injustice judiciaire, hein, une machination judiciaire, défense d'un innocent, et tout le monde ne s'est pas mobilisé pour lui, y compris parmi ceux qui s'étaient manifestés pour Dreyfus, parce qu'il y avait une injustice de classe, si je puis dire, dans cette affaire. Et certains avaient tendance de passer leur chemin et disent « Oui, mais les ouvriers, bon, c'est, voilà, ça ne fait pas partie de notre champ de préoccupation. » Et voilà, c'est ce qui était, à mon avis, emblématique d'une question importante qui n'est pas toujours visible et qui suscite des débats, voire des formes de cécité et d'aveuglement de la part de certains qui ne prennent pas en compte la misère sociale, par exemple. Alors, ça fait un lien avec la deuxième question. Qu'est-ce qui compte avant tout, l'homme ou la planète ? Et moi, je dirais les deux en général. Hein. Ce qui relève de la défense des plus pauvres ne doit pas être négligé par rapport à cette préoccupation légitime d'un développement qui ne nuise pas au sort de l'humanité à terme. Quoi, hein. Donc il y a les deux à tenir, et c'est difficile, et cela provoque, y compris à l'interne, dans une association généraliste, ou bien entre associations qui ont toutes des causes légitimes, des débats. Et pour la troisième, la liberté de manifester. Alors, les auteurs de violences. À mon avis, les violences contre les personnes ne sont à distinguer des violences contre des biens. Parce que c'est très embêtant, ça ne me ferait pas plaisir de retrouver ma voiture cramée là où je l'ai garée. Mais je sais très bien comment je me tourne vers mon assureur, etc. etc. Bon. Le problème de gens qui ont perdu un œil, perdu une main, c'est quand même plus grave. Hein, ou perdu la vie dans un accident, bon. Et donc, là, il y a quand même une distinction à faire, et l'État a une responsabilité. Alors certes, il y a le devoir de maintenir l'ordre public, de préserver des personnes contre des atteintes, alors d'abord à leur vie, à leur intégrité physique, s'il y a des gens qui sont menacés physiquement, il faut qu'ils soient protégés. Il a aussi la question de la protection des biens à prendre en charge, mais c'est une autre question, encore une fois, qui n'a pas la même gravité, et il ne doit pas porter atteinte à l'intégrité physique de gens qui sont dans la rue pour manifester leur colère. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Donc, toutes les limitations du droit de manifester sont intolérables. Je ne comprends pas, moi je ne sais pas très bien ce qui s'est passé hier à la place de la République, je n'ai vu que quelques images à la télévision, mais je ne comprends pas pourquoi toutes les installations qui étaient prévues pour une prolongation, si je puis dire, des rassemblements par une forme de forum, de discussion, des gilets jaunes en l'occurrence, a été démantelé, interdit, et la place a été complètement évacuée. Il y a là quelque chose qui me préoccupe du point de vue des libertés publiques, voilà, et qui préoccupe les droits de l'homme.
Alors, juste avant, je vais juste compléter pour une information. Pour ceux et celles qui voudront en savoir plus sur les points qui ont été répondus rapidement, là, nous avons mis à l'entrée un ticketeur que vous pourrez consulter de tous les derniers communiqués argumentés de la Ligue sur l'ensemble des questions qui se posent aujourd'hui. Et c'est le cas notamment du dernier point évoqué, donc vous pourrez aller le consulter tout à l'heure. Et deuxièmement, sur l'affaire Durand, il y a également un numéro spécial là, de mes libertés que j'évoquais tout à l'heure, mais tout le monde n'était pas assis au moment où j'en ai parlé, une double page sur cette période de l'histoire. Et puis enfin, sur l'autre question qui était le pont entre les questions de planète et donc d'environnement et les droits de l'homme, il y a aussi, alors là-dedans, une des dimensions qu'on n'a pas encore évoquée tout de suite, des droits de l'homme, des droits humains, qui est le droit à la santé. Et dans ce dossier, il y a une double page sur santé et environnement, parce que c'est intimement lié. On sait qu'il y a de plus en plus, et j'en ai connaissance, je suis l'auteur de cette page et co-animateur du groupe de travail qui travaille sur ces questions au quotidien à la Ligue. Et donc, pour nous, les deux dimensions sont totalement indissociables. On sait qu'il y a de plus en plus de problèmes de santé qui relèvent de ce qui met en cause l'avenir de la planète. Donc, des droits qui sont absolument indivisibles. Donc, une nouvelle série de questions, oui.
J'apprends qu'il y a une difficulté entre pour conjuguer les droits de l'homme et les droits de la femme. Et moi, c'est une contribution que je vous apporte, c'était déjà fait. Il suffirait d'ajouter un G avant le H. Ça s'appelait la Ligue des droits du genre humain. Alors,
Ma question est un peu complémentaire, parce que je ne comprends pas bien pourquoi ça peut poser problème les questions des droits des femmes au sein de la Ligue, puisqu'on est dans des questions de discrimination classique, enfin, peut-être pas trop sexiste. Donc je ne comprends pas bien. Quoi.
Alors, c'est pas qu'on ne peut pas dire que ça pose problème, mais comment répondre à la question que monsieur, juste avant vous, vient de poser. Par exemple, la dénomination, pour ne rien vous cacher, depuis quelque temps, nous discutons, y compris sur l'appellation, sur le terme employé pour désigner les droits de l'homme, pour désigner notre association, et pour expliciter que pour nous, hommes, ça signifie l'ensemble du genre humain. Vous avez raison, avec votre G ici. Voilà, alors, on peut mettre un grand H, alors bon, on ne va pas avoir maintenant ce débat, mais ça nous... Mais, bien sûr, les droits des femmes doivent être défendus, mais ce n'a pas été tout le temps le cas, y compris dans une association et dans une société où des gens se réclamaient du progrès, de la laïcité, de la République, et la gauche française n'a pas été très féministe dans son histoire. Et lorsque la question du droit de suffrage, droit de vote, a été posée en Europe, presque tous les pays de l'Europe ont accepté le droit de vote des femmes après la Première Guerre mondiale, 1920, en gros, et puis pas la France. Et y compris à gauche, des gens disaient non, les femmes, surtout pas le droit de vote, parce qu'elles vont voter comme l'Église, comme la réaction, comme les curés leur demandent de le faire, elles ne sont pas capables de réfléchir, en gros, et donc surtout pas. Pour plus tard, quoi. On est pour, mais plus tard possible. Un peu comme par rapport aux indigènes, hein, parce que sur la question coloniale, j'en ai pas parlé, je n'ai pas parlé de tout, mais la Ligue, elle a été mieux que la société française de son époque, bien sûr, mais elle n'a pas été top, elle n'a pas été. Ça nous perturbe de revisiter et de relier cette histoire aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on sait sur les droits des peuples par l'émancipation, par une nationalité, quelle qu'elle soit, coloniaux ou pas coloniaux. Et il en reste des traces. C'est même un peu mon champ de travail en tant qu'historien.
Quelques dernières questions, parce qu'on va être malheureusement obligé de laisser la place à la suite. Donc, vous voulez profiter. Alors, Gilles va rester avec nous. Donc, vous pourrez toujours, à la pause, à 16h, hein, on fera une pause d'un petit quart d'heure, vous puissiez à la fois aller voir les livres, les revues, vous découvrir les gens, etc. Mais quelques dernières, s'il y a une ou deux questions qui sont restées importantes, sur la place qui ont été évoquées.
Oui, moi, j'en aurais été un peu personnel, à savoir, il y a des droits, il y a des devoirs. Est-ce qu'on met d'abord les droits, puis les devoirs? Ou est-ce qu'on met d'abord les devoirs et on oublie les droits?
La réponse, elle sera claire et relativement rapide. Ce sont les droits qu'il faut défendre avant tout. Bien sûr, les droits ne sont pas illimités. Les abus des droits doivent être limités, voire poursuivis, sanctionnés. Abuser la loi, ça ne doit pas être permis. Mais c'est les droits qu'il faut défendre. Et dans toutes les périodes d'émancipation, telles que la Révolution française, par exemple, déclaration de d'août 89, déclaration de juin 93, après, la deuxième, c'est important aussi, c'est les droits qu'on met en avant. Après, dans les périodes de régression sociale, c'était le cas au début au consulat, on parle des devoirs, on les met en équilibre avec les droits, comme s'il y avait une symétrie. Ben non. Et parler des devoirs est souvent piégé parce que c'est une manière de limiter les droits.
D'ailleurs, vous avez l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été illustré dans l'entrée. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir les beaux travaux artistiques qui ont été réalisés par certains ici. Le seul devoir qui est dans l'article 1, c'est le devoir de fraternité des humains entre eux. Hein. C'est en gros, résumé rapide, mais devoir de fraternité. Et déjà, ça dit beaucoup de choses.
Oui, et la première chose, je vous rappelle quand même que c'est les hommes naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Justement, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu la différence que vous faites entre dignité et puis les droits?
La dignité, c'est apparu après la Seconde Guerre mondiale, puisque ce n'est pas dans les déclarations d'avant celle-ci, de la Révolution notamment. Dignité, parce qu'il y a eu une atteinte à la vie et à la dignité massive, j'ai pas besoin de faire un dessin, pendant la Seconde Guerre mondiale, du côté du nazisme. Et cette humiliation des personnes, cette déshumanisation des personnes, elle a conduit à ce processus de destruction des personnes. Donc défendre le droit à la vie, défendre le droit à la dignité, ça a été une nécessité au lendemain. Dans la déclaration, c'est ce qu'on appelle la DUDH, Déclaration universelle des droits de l'homme, de décembre 1948.
Madame. Bon, on ne peut que remercier les organisateurs locaux de la Ligue d'avoir organisé cette journée. Merci à vous d'être aussi clair et aussi convaincant. Mais ce qu'on peut constater, c'est que les débats de cette qualité se font rares maintenant dans les communes. Bon, il fut un temps où on avait beaucoup de rencontres et de réflexions communes. Nous, ça a continué un certain temps et on vient de... Enfin, je ne sais pas s'il y a encore un espoir de le sauver, mais on avait un espace privilégié, un cinéma, pour justement les débats et la Ligue. On a fait beaucoup de très intéressants. Et ça, c'est quand même un problème, et qu'il est souvent indifférent une population comme si ce n'était pas important. Alors que là est l'importance, ça nous permet à chacun de réfléchir, de rectifier les choses, enfin bon. Alors voilà, un appel à nouveau pour ce cinéma qu'on essaie de défendre encore pour qu'il y ait des débats vraiment nécessaires.
Est-ce que tu as une question? Une question.
Comment faire pour développer ça?
Peut-être une dernière question là-bas, parce que là on va vraiment être obligé. Vous avez entendu mon petit rappel sonore, c'était pas du tout un coup de téléphone, c'était pour marquer le temps, et il y en aura à chaque fois parce qu'on a malheureusement une après-midi hyper, je suis chargé de faire respecter le temps.
Je ne sais pas si vous pouvez donner une deuxième réponse à la question droit et devoir plus nuancée, parce que quand on voit ce qui se passe par exemple, aux États-Unis, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a certaines personnes aux États-Unis qui ne respectent pas le devoir. Et donc, avec votre réponse que vous avez donnée, que je vous systématiquement donner priorité au droit, je trouve ça très très délicat quand on regarde, ben, je cite l'exemple des États-Unis, mais je cite tous les exemples, y compris en France, où on voit beaucoup, beaucoup d'intolérance. Hein. Alors, comment vous pouvez dire qu'on doit toujours privilégier les droits quand on voit certaines choses qui se passent dans le monde entier, y compris en France, avec un niveau d'intolérance absolument inacceptable.
Oui, mais c'est des violations par rapport aux droits des personnes qui ont le droit de vivre. Par exemple, la question des migrants, elle est majeure dans le monde entier. Elle frappe d'ailleurs des pays dont on ne parle pas des problèmes qu'ils rencontrent de ce point de vue-là. C'est les pays, par exemple, des pays africains, des pays d'Asie, qui connaissent des migrations inter-pays, internations, qui les touchent beaucoup plus que la France n'est touchée par ce problème-là. Hein, ce problème. Nombre de réfugiés et d'étrangers au Liban, en raison de la guerre de Syrie, pardon, est sans commune mesure avec ceux qu'on connaît ici en France. Alors, les droits des personnes migrantes hein, existent. C'est des humains avant d'être des gens qui sont ressortissants d'un pays avec un papier émis par ce pays pour certifier leur nationalité. Donc, mais je crois que la question de défendre les droits, elle nous permet de rencontrer, y compris le devoir qu'implique l'asile. Alors là, c'est un devoir, l'asile. Le devoir de solidarité, le devoir d'humanité. Quand à la frontière italienne, dans la vallée de la Roya, au sud de Nice, on va en parler tout à l'heure. Voilà, je m'arrête. Il faut dire simplement qu'il y a un devoir de solidarité et d'humanité. Voilà.
Bien, merci Gilles, qui reste avec nous de toute manière, donc vous pourrez rediscuter avec lui si vous souhaitez tout à l'heure à la pause. Nous allons avoir un très bref interlude pour ceux qui sont arrivés tout à l'heure pendant le repas. Nous avons déjà pu apprécier Christian Lewoff, qui depuis une vingtaine d'années est slameur, auteur, rappeur, militant contre le VIH et qui s'est notamment manifesté à Conflans à la demande de Jeannette Maury, qui est intervenue tout à l'heure, dans le cadre des Casvies, le 1er décembre. Et grâce à Jeannette, nous accueillons aujourd'hui Christian Lewoff pour un très bref interlude avant de passer à la table ronde suivante en présence de Gilles, qui peut se mettre en place pendant avec les personnes qui seront avec elle, c'est-à-dire justement sur la problématique des migrants. Eh bien, je ne sais pas s'ils sont dans la salle d'ailleurs, mais des personnes qui avaient accepté d'être filmées, puisque nous allons avoir un certain nombre de petits films ensuite réalisés, en particulier par... enfin, j'en reparlerai après. Je vais vous écouter notre salle.
Ok. Je suis de retour. Je suis de retour. Le slammer est de retour. Merci. Après chanson d'amour, ça peut courir le même lit. En fait, c'est une histoire que j'ai pas vécue, mais j'ai tellement imaginé que c'est comme ça. Ah, il n'y a plus de son. Si, c'est bon. Donc voilà. Pour ceux qui veulent mon nom, j'ai mis des flyers sur la table avec une adresse mail. Donc vous pourrez. Si vous voulez, vous pourrez aller chercher des flyers et me contacter sur mon adresse mail. Voilà. Par contre, la musique n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, elle n'est pas arrivée.
Elle n'est pas arrivée, non.
Attends. C'est allumé.
Là, c'est pas normal. Il y a un truc là. Tu l'as mis le micro là,
que l'autre c'est la vidéo.
Oh. Excusez-moi.
Donc là, j'ai lancé. Normalement, tu dois entendre le son. Il n'y a pas de son. Il y a un truc qui va pas là.
Là,
c'est celui-là qui tire. Ouais, c'est celui-là qui tire. C'est pas le son qu'on va entendre.
Il va où, celui-là ? Il est là.
C'est le cognac que tu m'as donné, tu crois ? Ah ouais, d'accord, ok.
Je pense que oui, normalement.
Ouais, ouais, ouais.
D'ailleurs, c'est quelqu'un lié à ça. Tu regardes ce qui s'est passé. Si, c'est ça. Ah, mais il est là, tiens.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'est le monsieur pour le théâtre qui l'a pris. C'est bon. Désolé. Désolé, il y a un petit croisement de fil.
Ce sont les aléas du direct. Voilà. Je chante en direct. Pas de playback chez moi. Donc, j'étais en train de vous dire que c'est une chanson qui s'appelle Sur rythme menu. Une chanson d'amour. Voilà. Donc, pour vous ce soir, aujourd'hui. Sur rythme menu. Ton message est rayonnant, comme celui d'une déesse. Ta vie, ton histoire, toute ta sensibilité m'intéresse. J'aime quand tu m'enlaces, quand tu me couvres de caresses. Surtout quand je sombre, quand je suis en détresse. Tu aimes à t'assurger de parfum Coco Chanel. Tu cherches constamment à être la plus belle. Tes yeux sont des diamants, pas besoin de rimel. Tes cheveux sont soyeux, j'aime leur odeur de miel. Je suis plutôt pudique, c'est là toute la problématique. Donc de trouver le mot, même si je suis un romantique. Je ne peux vivre sans toi, c'est une pathologie chronique. Tu es ma raison d'être, je te suivrai jusqu'en Antarctique. L'amour est comparable avec l'art de vos calibres. Les histoires parfois ressemblent à celles des livres. Quelquefois on exulte, un peu comme quand on est libre. L'amour nous libère, sa puissance le délivre. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Je tiens la barre entraînée par le vent qui se lève. Tu rythmes mes nuits. Tu rythmes mes rêves, mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves, je tiens la barre entraînée par le vent qui se lève. Une première rencontre qui a lieu car c'est un hasard. Une belle histoire qui n'a peut-être rien d'un hasard. Au début, carrément timide, peu à peu bavard, on avançait tous deux côte à côte sur un immense boulevard. Ce jour magique sera gravé dans ma mémoire pour le jour qui nous a conduit sur le pas du temps, chemin de l'amour. Une première rencontre, la vie nous a souri, je faisais beau, c'était enfin notre tour. Le temps s'arrête, alors maintenant plus rien ne presse. On parle de tout et de rien, même de notre stress. On est d'accord sur les injustices, ceux qui nous oppressent. On échange les infos, on se conseille pour que l'on progresse. La voix de velours féminine qui font sourire. Ensuite viennent les lois et les images qui font plaisir. Je me sens bien avec toi, je ne veux surtout pas partir. Ce que je veux, c'est vouloir rapidement te découvrir. Je vais me mêler. Tu rythmes mes rêves, mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves, je tiens la barre entraînée par le vent qui se lève. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves, mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves, je tiens la barre entraînée par le vent qui se lève. L'humanité nage parfois dans un océan virtuel. On vit dorénavant dans un monde artificiel. À nous d'échapper au piège du champ superficiel. Moi j'aime les bons moments, ceux qui s'ancrent dans le réel. Un jour pour elle, on se posera en sol en déjà. À peine serré contre moi, tu me parleras tout bas. Et puis tu souriras, le bonheur sera là tout près de toi. Plus jamais tu ne t'en iras, une main invisible te guidera. Oh, tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Je tiens la barre entraînée par le vent qui se lève. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Tu rythmes mes nuits, tu rythmes mes rêves. Je tiens la barre entraînée par le vent qui se lève. L'amour incomparable est une arme de gros calibre. Les histoires parfois ressemblent à cette énigme. L'amour est comparable à une arme de gros calibre. Les histoires parfois ressemblent à cette énigme. L'amour est comparable à une arme de gros calibre. Les histoires parfois ressemblent à cette énigme. L'amour est comparable à une arme de gros calibre. Les histoires parfois ressemblent à cette énigme. Je rythme mes nuits, je rythme mes rêves. Mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Je rythme mes nuits. Brûle mes rêves jusqu'à la fin entraînée par le vent qui se lève. Brûle mes nuits, brûle mes rêves. Mon amour pour toi ne connaît pas de trêve. Brûle mes nuits, brûle mes rêves jusqu'à la fin entraînée par le vent qui se lève. Merci. Puisque j'ai 10 minutes, je vais vous chanter une autre chanson en fait. Ça s'appelle Le Bacle. Je peux en chanter une plus tard. Allez, allez, rapide.
On a pris du retard, là. Je suis désolé, je la connais, et ça serait bien que tu la fasses après. Mais bon, tu envoies le...
J'y vais maintenant. Allez, j'y vais maintenant, ok. Ça s'appelle Le Bacle. En fait, je me suis imaginé un policier de la Bacle. Pas le temps de finir mon café crème. Soudain, l'alerte est donnée dans le commissariat de Villeneuve-la-Garenne. L'équipage est prêt, on va entrer en scène. On met les pare-balles, on démarre direction les quais de Seine. Un homicide est signalé par une chasseigne. Il va y avoir du danger, la 208 file avec sa sirène. Arrêtez sur les lieux, nous faisons face à des individus pleins de haine. On sort les gueules, on les met en joue, on les freine. Soudain, ça se met à courir, mais nous, on reste calme. Il y a pas mal de monde, surtout des enfants et des femmes. C'est toujours le même psychodrame, des lipochés victimes des gangs et de la prolifération des armes. On avance de 10 mètres, la victime s'appelait Atteraman. C'était un jeune de 700 jeux qui perd à son âme. On l'a vu grandir et on savait qu'il finirait mal, car il s'était lancé dans le business du shit et de la cam. C'est alors qu'un meilleur vient nous voir, il pleure et son regard est rempli de tristesse et de désespoir. Il veut témoigner, il demande à s'asseoir. Il dit qu'il a toujours prétend avoir perdu du tout une excellente mémoire. Mais moi je me fous dans ton histoire. Tout ce que je veux c'est m'acheter du sky et le voir. L'ambiance est un peu tendue ce soir. Les gens nous appellent pour une autre histoire, cette fois-ci dans un bar de Lascar. Je m'appelle Mathieu, je suis en Mathieu, je suis malheureux. Je m'appelle Mathieu, je suis en Mathieu, je suis propre de cause. Je m'appelle Mathieu, je suis en bagueux, je suis malheureux. Je m'appelle Mathieu, je suis en bagueux, je suis propre de cause. Je m'appelle Mathieu, je suis en bagueux, je suis malheureux. Je m'appelle Mathieu, je suis en bagueux, je suis propre de cause. Je m'appelle Mathieu, je suis en bagueux. Je m'appelle Mathieu, je suis malheureux. Je m'appelle Mathieu, je suis en bagueux. J'appartiens à la police nationale, et je suis contre cette prison de politique pénale. L'impunité est devenue un sentiment général, je nage au milieu de ce chaos, de cette merde sociale. Ma vie sentimentale est un peu spéciale, et je vous jure que certaines nuits sont carrément glaciales. Heureusement, la PAC est une brigade dans laquelle le dévouement et le sacrifice sont des valeurs fondamentales. On nous prend parfois pour des gangsters, des durages purs, des mercenaires en quête de bonnes affaires. Mais moi, j'ai su proposer de la barrière, j'ai parfois recours à la prière, je serai jugé par Saint-Pierre. Pourtant, aujourd'hui, je me demande quelle est ma mission sur terre. Je côtoie l'humanité, on est tous sauf des frères. Oui, mon cœur est dur comme de la pierre. J'ai tout vu et pourtant, je suis tout juste trentenaire. Je m'appelle Mathieu, je suis en bagueux, je suis malheureux. Je m'appelle Mathieu, je suis en bagueux, je suis propre de cause. Je m'appelle Mathieu, je suis en bagueux, je suis malheureux. Je m'appelle Mathieu, je suis en bagueux, je suis propre de cause.
m'appelle Mathieu, je suis en maillot, je suis malheureux. Je m'appelle Mathieu, je suis en maillot, je suis propre de cause. Je m'appelle Mathieu, je suis en maillot. Je m'appelle Mathieu, je suis malheureux. Je m'appelle Mathieu, je suis en maillot. Peut-être qu'un jour j'irai consulter. J'aimerais bien comprendre ma psychologie, le mode de fonctionnement de ma pensée. Heureusement, avec les collègues, on est bien soudés. Un autre officier est tombé, ça nous a sacrément rapprochés. Il est toujours présent et son portrait est accroché. On a aidé sa famille avec l'argent qu'on a pu récolter. Cet épisode m'a profondément affecté et me rappelle que les choses peuvent à tout moment s'arrêter. L'état d'urgence nous oblige à redoubler de prudence. On navigue entre la délinquance et les marchands d'espérance. C'est toute une jeunesse qui refuse d'entrer dans la danse. L'obscurantisme est désormais en pleine croissance. Mais nous, on aime notre pays, la France. On doit défendre la République, on en a pleinement conscience. Pas de vacances, c'est une terrible cadence. Je suis battu et c'est un SOS que je lance.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai plus de câble.